Chapitre 5. On se préoccupait fort dans le village de la soirée dramatique annoncée pour la semaine suivante, et les petits aréopages, groupés le soir au seuil des portes, avaient déjà commenté et critiqué le programme dans ses moindres détails. Sur le banc de la boulangère, autour de la rocaille de Madame Mathé, on ne parlait pas autre chose. Julie Dumont bénéficiait de cet engouement, car on oubliait de se demander en s'abordant comment allait le vieux David et si son ingrate de nièce osait bien venir le voir. Un sujet plus neuf absorbait l'attention générale. On avait appris que Mademoiselle Élise faisait les costumes pour la représentation et, depuis lors, Mademoiselle Élise était un personnage. Le soir, quand elle passait, revenant de journée et portant sa petite machine sur le bras, on lui trouvait l'air méditatif. Elle rêvait sans doute à quelque ajustement de soubrette ou à ce fatal costume breton qui lui avait déjà coûté 3 nuits blanches et tout autant de migraines. L'amateur dramatique, chargé du principal rôle féminin, celui d'une ingénue, fille de pêcheur ou quelque chose de ce genre, tenait beaucoup à la couleur locale. Il voulait un costume breton, mais là, tout ce qu'il y a de plus breton. Et comme ses indications n'allaient pas plus loin, la pauvre couturière était bien embarrassée. Heureusement, Madame Mathé n'était pas sans littérature. Elle se rappela que, dans tous les romans qu'elle avait vus, une Bretonne qui se respecte ne paraît pas sans croix d'or. La croix d'or nécessite évidemment un fichu blanc croisé sous un corsage ouvert. Avec un jupon plissé, des souliers à boucles et un bonnet tant soit peu excentrique, on aurait un costume devant lequel les plus clairvoyants eux-mêmes seraient obligés de s'écrier « Mais voilà qui est breton tout à fait !» Déjà, le jeune dilettante avait essayé son bonnet, sous lequel ses cheveux blonds et frisés faisaient merveille. Quant au second rôle féminin, il exigeait un costume de ville qui formait un piquant contraste avec l'ajustement rustique de la fille du pêcheur. On parlait d'une robe de soie verte dont Mademoiselle Élise allait rajeunir la coupe et, comme accessoire, d'un éventail d'ivoire ciselé et d'un flacon de sel que Madame la docteure prêtait obligeamment pour la circonstance. Elle offrait même d'enseigner à l'acteur le maniement de ces objets délicats. Comme on le voit, les détails de la mise en scène n'étaient un secret pour personne. Ce n'était pas une surprise foudroyante que la société Lezel ménageait à son public. Mais l'intérêt de la représentation n'en serait pas moins grand, au contraire. Voir paraître dans cette lumière d'apothéose, dont la scène éclaire tous les objets, le châle de maman, la belle canne que papa a prêtée et le guéridon sur lequel grand-maman pose ordinairement son ouvrage, mais que le beau vicomte de Carvadac reconnaîtra tout à coup pour avoir appartenu de toute ancienneté à sa famille et qu'il regardera d'un air attendri, n'est-ce pas bien amusant? Et ne vous est-il pas plus facile de vous identifier tout à fait avec la pièce que si le décor vous était étranger? On discutait donc tout cela avec bonhomie et comme en famille. La représentation devait avoir lieu dans la grande salle de la source, à la Bonne Fontaine. C'était le seul local assez vaste pour contenir un nombreux public. Un peu éloigné du village, à la vérité, mais qui donc aurait reculé devant 10 minutes de marche, fût-ce par une pluie battante, pour aller contempler sur la scène la touchante vertu et le bonheur final de la fille du pêcheur. Un vaudeville, bouché friande, devait suivre la comédie en 3 actes. Avant le lever du rideau, l'orchestre exécuterait une ouverture. Dans les entr'actes, il y aurait un duo de cor et de bombardon et une fantaisie pour cornet à piston seul. Ce dernier morceau, inédit et anonyme, portait le titre assez bizarre de « Tyrolienne turque ». Mais un puriste ayant trouvé à redire à cet accouplement de mots, on chercha une autre désignation et celle-ci, « Souvenir de Constantinople », fut choisie et approuvée par tous les aréopages. L'Orient étant, comme on sait, la patrie classique des fausses notes, toutes celles qui pourraient échapper à l'exécutant étaient justifiées d'avance. Enfin, comme l'élément tragique n'était pas suffisamment représenté dans le programme et que les dames risquaient de retourner à la maison avec leurs mouchoirs secs, un artiste de bonne volonté s'offrit à déclamer la grève des forgerons, assuré de faire passer un frisson de saisissement dans tout l'auditoire. Alcide Burnier, lorsqu'on lui communiqua cette proposition, fit la grimace, flairant sous ce titre quelque injure. À l'adresse de la respectable corporation dont il faisait partie. Et puis, les grèves, c'est du socialisme, et le socialisme, c'est de la politique. Nous ne voulons pas payer un franc d'entrée pour qu'on nous fasse de la politique, déclara-t-il avec une logique aussi inflexible que la barre de fer sur laquelle s'escrimait son lourd marteau. On l'apaisa en lui jurant solennellement qu'il ne serait pas question de politique et que chacun aurait du plaisir pour son argent, de sorte qu'il voulut bien finalement autoriser la grève des forgerons. Madame Fèvre prit une part active à tous les débats. On eût dit qu'elle fuyait le silence. Jamais sa voix sèche n'avait eu un timbre aussi bruyant. Jamais elle ne s'était tant échauffée pour soutenir son opinion. Parfois, cependant, au beau milieu d'un grand discours, elle se taisait subitement. Ses yeux prenaient une expression inquiète, presque égarée, et pour quelques minutes, elle n'entendait pas un mot de ce qu'on lui disait. Elle avait quelquefois des accès de colère aussi violents qu'inexplicables. Elle ne pouvait souffrir qu'on s'informât de la santé de son beau-frère. Un jour, que le jovial boulanger lui demandait par plaisanterie si elle enfermait donc le vieux David, qu'on ne le voyait plus jamais descendre, elle était entrée dans un paroxysme de rage, bien fait pour étonner les spectateurs. Presque livide, les lèvres tremblantes, la voix étranglée, elle avait murmuré d'une façon à peine intelligible les mots de diffamation, procès, honnête femme calomniée. Puis elle avait disparu derrière sa porte, tandis qu'un cercle de curieux entourait le pauvre boulanger tout interloqué. Cependant, Madame Fèvre perdait rarement ainsi tout empire sur elle-même. Si, depuis quelque temps, elle parlait beaucoup et avec une grande volubilité, c'était toujours de choses indifférentes. On eût dit qu'elle sonnait une grosse cloche pour couvrir le bruit obsédant de quelques refrains bourdonnant à ses oreilles. Chez elle, elle redevenait silencieuse et de longues après-midi s'écoulaient sans qu'elle et son beau-frère échangeassent un seul mot. Assise en face du vieillard, elle tricotait, les yeux fixés sur lui avec une expression étrange, demi-absente, demi-effrayée. Du reste, elle soignait son malade avec une constante sollicitude et quand elle lui demandait « Vous sentez-vous mieux maintenant ?» il y avait comme de la supplication dans sa voix. L'état du vieillard ne semblait pas justifier des craintes sérieuses. Depuis 2 jours, il y avait même une notable amélioration, moins d'abattement et de somnolence, plus d'appétit. Et quand, à la fin de la semaine, l'oncle David descendit au jardin par une tiède après-dînée, il se déclara guéri et ne voulut plus entendre parler de potions ni de régime. Entre lui et sa belle-sœur, le testament ne fut pas une fois mentionné. C'était un sujet clos, pénible d'ailleurs à tous deux pour des raisons différentes. Julien, naturellement peu disposé à s'humilier devant Madame Fèvre, ne faisait aucune tentative pour entrer en grâce. Quant à Julie, elle n'avait pas appris l'indisposition de son oncle. Lorsqu'elle le revit, il était à peu près remis et lui parut aussi bien qu'à l'ordinaire. Dans cette visite, Julie fut mal à l'aise, l'oncle très silencieux et Madame Fèvre vigilante comme un argus. « Je ne sais vraiment pas pourquoi j'y retournerai, » pensait la jeune fille en s'en allant. « Mon oncle n'a aucun plaisir à me voir et moi, je m'irrite toujours plus contre lui. » Le lendemain était le jour fixé pour la représentation. Dès le matin, tous les jeunes gens du zèle furent en l'air, faisant 10 fois d'une heure le voyage de la Bonne Fontaine au village et retour. Il fallait donner bon air à la salle au moyen de quelques guirlandes, placer les bancs, élever la scène, suspendre le rideau et disposer les décors. Tout le long de la chaussée qui traverse le marais, on voyait trotter d'officieux gamins qui, à peine sortis de l'école, venaient s'offrir à la dramatique pour faire ses commissions. L'un accourait à toutes jambes, portant une caisse de clous, un autre se mettait en route des pelotons de ficelle, D'autres encore amenaient, avec tous les égards dus à son grand âge, un antique fauteuil qui dissimulait ses infirmités sous une housse de Perse. Tandis que ces petites caravanes faisaient ainsi, en se croisant, un actif service de messagerie, la plus grande activité régnait dans le sanctuaire même et aux alentours. Cette maison de la Bonne Fontaine est un édifice d'assez belle apparence, à deux ailes, et dont le toit rouge s'aperçoit de loin. Au premier étage est l'appartement du concierge. Au rez-de-chaussée, la vaste salle des curistes, éclairée par de hautes fenêtres cintrées et ouvrant par plusieurs portes sur un large perron. Des boiseries couleur chêne et un mobilier très sommaire lui donnent l'air un peu lugubre lorsqu'elle est déserte et qu'on n'y entend d'autre bruit que le monotone clapotement de la source. Celle-ci coule en mince filet à l'angle de la salle, dans un enfoncement où l'on descend par un escalier. Autour du petit bassin de pierre, rougi d'une teinte ferrugineuse, s'empresse chaque matin pendant l'été un gracieux escadron féminin qui remplit la haute salle sévère de rires et de joyeux éclats de voix. Les tailles sveltes et les toilettes claires se détachent sur les sombres boiseries. On entre et on sort. Les portes vitrées sont toutes grandes ouvertes et l'air frais de la montagne pénétrant par bouffées fait onduler et bruire doucement les volants de mousseline. En passant, on fourrage un peu dans les capucines qui grimpent autour des embrasures, on croque une tige, on pique une fleur pourpre dans ses cheveux si l'on est brune, puis on redescend la petite source et, pour boire, on serre entre ses lèvres un tuyau de plume qui doit empêcher l'eau ferrugineuse de noircir l'émail nacré des dents. Ce devoir matinal accompli, on se disperse par petits groupes, les bras enlacés, dans la forêt voisine. Mais en octobre, tout ce joyeux essaim s'est, depuis longtemps, envolé, et la grande salle maintenant solitaire semble froncer le sourcil au souvenir des folies de l'été. Elle s'étonne sans doute aujourd'hui de se voir envahie par une troupe bruyante, d'entendre résonner des pas lourds et des coups de marteau. En cet instant, on met la dernière main aux décorations. De légers festons de lierre flottent autour des lampes suspensions, des guirlandes de mousse rondes et lourdes courent le long des parois et encadrent les fenêtres. Au fond de la salle, les cussons neuchâtelois se dressent comme une égide et, en face de la porte, un grand transparent fera flamboyer ce soir son hospitalière devise « Soyez les bienvenus ». Comme on le voit, les jeunes gens du zèle n'ont pas épargné leur peine. Un critique grognon reprocherait peut-être à leur décoration de rappeler un peu trop celle d'une cantine de fête, mais le bon public du village n'est pas blasé. Ce soir, quand les lumières brilleront dans toute cette verdure, l'effet sera trouvé superbe. Cependant, un groupe se tient depuis un moment devant le rideau baissé et l'examine d'un air peu satisfait. « Les plis ne tombent pas bien, c'est mesquin, c'est disgracieux, » murmure-t-on en hochant la tête. Mais on ne saurait exiger d'une pauvre perse à ramage, coûtant 20 sous le mètre, le moelleux, la grâce majestueuse du velours et du damas. Ah, si pourtant la caisse l'eût permis! Mais la caisse s'y est absolument refusée. Il faudra donc attendre à l'hiver prochain pour échanger la vieille perse fanée contre un beau reps de laine avec franges et draperies. Le rideau joue-t-il du moins bien sur sa tringle? S'écarte-t-il régulièrement des deux côtés? Qu'il ne nous fasse pas, comme l'autre année, la niche de s'ouvrir tout grand à droite de la scène, où il n'y avait rien à voir, et de rester obstinément fermé à gauche, où l'acteur, assis devant une table, attendait pour commencer son monologue, que ce paravent voulut bien s'écarter. Cette fois-ci, tout ira bien. La ficelle, les anneaux, la tringle font admirablement leur office. Le souffleur s'insinue dans sa loge, où il a juste assez de place pour n'être ni assis, ni debout, ni couché. Et comme c'est un garçon d'un bon caractère, il la déclare tout à fait confortable. Tout est prêt maintenant. Les caisses d'ajustement ont été transportées dans les coulisses. Le costume breton, emballé avec un soin particulier, a été salué d'applaudissements unanimes. Il n'y manque plus que la croix d'or, qu'on a dû emprunter dans un autre village et qui arrivera par la poste de l'après-midi. Là-dessus, chacun s'en va en se donnant rendez-vous pour 7 heures du soir. Alcide Burnier, nommé régisseur de la troupe à cause de son inaptitude à remplir d'autres fonctions, reste en arrière pour assembler les pelotons de ficelles, les clous et les bouts de planches, tous les vestiges du travail de la matinée. Judith, vous venez ce soir à la dramatique ? Eh bien, je ne sais trop, murmure Madame Fèvre. C'est vrai que David est tout à fait bien maintenant, mais je ferais peut-être mieux de rester avec lui. Quelle bêtise ! Ce n'est pas un poupon, votre beau-frère. Si vous ne venez pas, vous serez pendant 6 semaines au moins sans pouvoir vous mêler aux conversations. Car jusqu'à Noël, on ne parlera plus que de la comédie, comptez-y. Quand on dira « Vous rappelez-vous celui-ci, comme il gesticulait bien ?» et « Comment avez-vous aimé la moustache d'un tel ?» vous n'aurez pas un mot à répondre et ce sera bien désagréable. L'argument avait sa valeur. Madame Fèvre aimait autant qu'une autre à émettre son opinion et d'ailleurs, on disait merveille de la pièce et des costumes. À peine rentrée, elle s'empressa de sonder l'oncle David à ce sujet. Allez-y, allez-y bravement, dit-il au premier mot qu'elle lui en toucha. Je ne vois pas pourquoi vous vous en priveriez. Vous n'y viendrez pas vous-même, dit-elle avec quelque hésitation. Non, je suis trop vieux pour trouver du plaisir à ces choses, et d'ailleurs, ma tête ne supporterait pas ce brouhaha de gens et de musique. Vous ne manquerez pas de compagnie, Judith. Peut-être y verrez-vous Julie, ajouta-t-il avec une intonation presque tendre. « Vous me direz si elle avait l'air d'être contente et de bien s'amuser. » À 7 heures donc, Madame Fèvre entra tout habillée chez son beau-frère pour lui dire adieu avant de sortir. « Êtes-vous bien ? » demanda-t-elle en poussant un tabouret sous les pieds du vieillard. « Voici le jeu du solitaire sur la petite table si vous avez envie de faire une partie. Et vous savez qu'il y a du vin sucré dans la cavette. S'il vous manque encore quelque chose, dites-le-moi avant que je sorte. » « Rien, merci, » répondit l'oncle, et sa voix était aussi triste que s'il eût dit « Tout me manque. » Madame Fèvre s'en aperçut. « Si vous n'êtes pas bien, je resterai, » dit-elle en s'apprêtant déjà à ôter son chapeau. « Qui vous dit que je ne sois pas bien ?» fit le vieillard avec une légère irritation. « Allez à la comédie sans scrupule, Judith, ce n'est pas vous qui guérirez le mal que j'ai là. » Il appuyait la main sur sa poitrine d'un geste plein de souffrance. Vous ne m'avez jamais parlé de ce mal, dit Madame Fèvre avec étonnement. Est-ce une crampe ou de l'oppression? L'oncle David haussa les épaules et sourit tristement. Vous ne pensez qu'aux maux du corps, Judith. Vous ne croyez pas qu'on puisse languir de chagrin. Il poussa un soupir et, détournant la tête, reprit au bout d'un instant. « Ce que j'en dis n'est pas pour vous faire de la peine, mais voyez-vous, belle-sœur, sans Julie, je ne vis plus. Quand je la vois, je voudrais la supplier de venir ici plus souvent, de me parler comme autrefois, avec cette voix contente et gaie qui me rajeunissait. Mais ce n'est pas à mes cheveux blancs de s'humilier devant elle. Je n'ai pas eu de tort envers mes neveux, c'est pour leur donner la paix que je les ai quittés. Je l'expliquerai une fois à Julie. » Madame Fèvre tressaillit, mais se rassura aussitôt. « Je saurais bien vous en empêcher, » pensa-t-elle. « Peut-être ai-je été trop sévère pour ma nièce, » reprit l'oncle. « Elle m'a paru ingrate, ce n'était sans doute qu'un peu de légèreté et d'oubli. La déshérité, c'est dur pour moi, Judith. Pour elle aussi, car enfin, ma petite fortune faciliterait les commencements de son ménage. » « Et ce cher Julien en profiterait, » remarqua Madame Fèvre avec ironie. « Ce n'est que juste, il s'est montré si bon neveu. » « Nous en reparlerons, » dit le vieillard d'un ton lassé. « Allez maintenant, Judith, vous risquez de ne plus trouver de place. » À la même heure, Julie s'habillait aussi pour la soirée. Elle n'avait pas le cœur bien gai, mais Julien tenait à ce qu'elle assistât à ses débuts dramatiques. « Que je suis donc retardée !» s'écria-t-elle en cherchant ses gants. « Marie, apporte-moi mon chapeau, s'il te plaît. Vous serez bien sage en mon absence, n'est-ce pas, et très obéissant envers grand-maman Suzette, puisqu'elle a la bonté de venir vous garder. » Suzette était une vieille voisine qui aimait beaucoup Julie et lui rendait fréquemment des services. « Maintenant, me voilà prête, je crois. mais je n'ai plus le temps de passer au village, et pourtant l'oncle aurait dû recevoir son beurre ce soir. Il n'en aura pas demain à déjeuner. » « Je le lui porterai, si tu veux, » dit Marie avec empressement. « Non, il fera trop sombre pour revenir seul. » « Le bov y pourrait m'accompagner. Il a toujours des commissions à faire le soir. » Le bov, autrement dit le petit berger du fermier blanc, était le protecteur juré et le grand héros de Marie. « Cela pourrait aller ainsi, » dit la sœur aînée. « Mais vous ne l'embiderez pas en chemin. » Comme le chaperon rouge de tragique mémoire, la fillette mit le beurre dans son petit panier et partit joyeusement. Elle aimait fort à visiter son vieil oncle qui avait toujours pour elle quelques friandises en réserve. Julie sortit presque en même temps, mais au lieu de suivre le sentier des tourbières, ce qui eût été un détour, elle prit le chemin rocailleux qui longe le pied des pâturages. Julien n'avait pas pu venir la chercher car il devait se trouver à la Bonne Fontaine une grande heure avant la représentation. Quand Julie arriva près du bâtiment, les hautes fenêtres illuminées brillaient dans la noire solitude comme un engageant appel. Des groupes se pressaient aux portes. Les meilleures places étaient déjà prises et l'on se logeait maintenant comme on pouvait. Julie s'assit au bout d'un banc, tout en arrière, vivement incommodée par le voisinage de la porte qui, en s'ouvrant à toute minute, lui cinglait sur la nuque un courant d'air froid. Mais, un peu plus tard, elle devait bénir le hasard qui lui avait octroyé cette place reculée plutôt qu'un siège rapproché de la scène. Il était 7h30. L'auditoire au grand complet, après avoir payé un juste tribut d'admiration aux guirlandes et autres embellissements, commençait à donner des signes d'impatience. On se lasse des plus belles choses, le transparent lui-même devenait fastidieux. Enfin, les musiciens prirent leur place et, sauf quelques fausses notes que le public bénévole voulut bien prendre pour des variations en mineur, le morceau d'ouverture fut exécuté d'une manière très satisfaisante. On applaudit avec beaucoup d'ensemble. Mais il faut avouer que ces bravos avaient quelque chose d'un peu conventionnel, d'un peu froid. Il semblait dire « Bien, bien, vous avez fait votre devoir, mais c'est assez s'amuser aux bagatelles de la porte. La pièce maintenant, la pièce !» Et la pièce commença. Quand, au tintement de la petite sonnette, le rideau s'écarta, un murmure d'admiration courut parmi les spectateurs. Le décor représentait la mer aussi bleue que nature, un peu plus même, et sur le rivage, une pittoresque chaumière. Dans ce paysage enchanteur se promenait un beau monsieur, la badine à la main, un ruban rouge à la boutonnière, le vicomte Guy de Kervadac. Il paraissait fort agité et déclara dans son monologue que si cette lettre de Paris n'arrivait pas aujourd'hui même, il n'aurait plus qu'à se brûler la cervelle ou à se faire subir quelque autre désagrément. Heureusement pour la société, qui aurait perdu en lui un de ses plus beaux ornements, la lettre ne se fit pas attendre. Le domestique du comte arriva tout essoufflé sur la grève, présentant avec un beau salut la missive désirée. Puis il se retira non moins respectueusement et Julie poussa un soupir de délivrance. Maintenant, Julien était hors de cause. Elle pouvait jouir du spectacle sans arrière-pensée. Le vicomte déchira lentement l'enveloppe, fronça deux ou trois fois le sourcil, tout ça pour se donner une contenance et finit par avoir l'air très perplexe. On crut dans l'auditoire qu'il avait oublié son rôle et quelqu'un même interpella le souffleur à haute voix, le soupçonnant de s'être endormi dans son antre. Mais il n'y avait pas lieu à souffler car c'était la fille du pêcheur qui se faisait attendre. Enfin, pourtant, elle parut et son entrée, pour avoir été longtemps attendue, n'en fut que plus brillante. Yvonne, car les filles de pêcheurs bretons s'appellent toujours Yvonne au théâtre, Yvonne s'avançait les yeux baissés comme une jeune personne modeste qui connaît le pouvoir de ses charmes mais n'en voudrait pas abuser. Elle fredonnait une barcarolle quelconque et sa main, une main d'horloger heureusement, assez fine et blanche, jouait avec la croix d'or suspendue à son cou. Un bonnet hyperbolique s'élevait sur sa tête. Ce n'était pas une coiffure commode, car le moindre mouvement un peu vif pouvait en compromettre l'équilibre. Cependant, comme Yvonne s'avance à petits pas, une main dans la poche de son tablier, le noble vicomte Guy de Kervadac se retourne subitement et reste comme enraciné devant ce composé de grâce et d'innocence. La vue seule du bonnet aurait eu de quoi le pétrifier, mais ce n'est pas là ce qui frappe le vicomte. Il regarde, il admire ce ravissant visage, et le voilà qui tombe incontinent amoureux. Au théâtre, on est obligé d'aller vite en besogne. Aussitôt, dans un aparté qu'Yvonne est seule à ne pas entendre, il explique les difficultés de sa position. Une jeune demoiselle de Paris, immensément riche, cela va sans dire, et dont on lui accorderait volontiers la main, doit arriver aujourd'hui même avec son frère. Sa dot tirerait d'un grand embarras le pauvre vicomte, qui, depuis longtemps, paraît-il, a oublié de payer ses fournisseurs. Mais, de notre côté, cette rose du rivage, cette fille de pêcheur, une chaumière et son cœur, le noble vicomte est très combattu. Dans sa perplexité, il se promène à grands pas et s'oublie jusqu'à fourrer ses deux mains dans ses poches, ce qu'un vicomte bien élevé n'a pourtant jamais fait. À quoi va-t-il se décider, pensait Julie, qui, peu blasée en fait de théâtre, avait presque oublié sa propre existence pour se plonger jusqu'au cou dans l'intérêt de la pièce. Mais tout à coup, une ombre se dressa tout près d'elle et la fit tressaillir. Derrière la haute fenêtre aux vitres sombres s'avançait une tête qui semblait plonger dans la salle un regard inquisiteur. Julie fut sur le point de crier de saisissement, mais elle se mordit les lèvres et rougit à l'idée du trouble qu'elle avait failli causer. « C'est quelque gamin qui veut voir la comédie gratis, » pensa-t-elle. Cependant, la tête s'était retirée. Une minute plus tard, la porte près de laquelle la jeune fille était assise fut entr'ouverte doucement. Une enfant effarouchée se glissa près de Julie et la tira par sa robe. « Viens, sœur, viens !» murmura-t-elle d'une voix étranglée par les larmes. Julie ne dit pas un mot. Elle se leva, pâle jusqu'aux lèvres, prit l'enfant par la main et sortit. Le bov y se tenait derrière la porte. « C'est lui qui a grimpé sur la fenêtre pour voir où tu étais, » dit Marie. « L'oncle m'a envoyé te chercher. Oh, Julie, il est bien malade, bien malade !» Et la pauvre petite éclata en sanglots. « Il est tout seul !» s'écria Julie. « Pouvez-vous courir, enfant ?»« Mais non, tu trembles comme la feuille, pauvre chérie. Pierre, donne-lui la main et conduis-la vite jusqu'à la maison. » Vous direz à grand-maman Suzette que je la prie de rester chez nous pour cette nuit. Allez, mes enfants !» Et sans tarder davantage, Julie s'élança sur la chaussée. Courir lui semblait un soulagement dans la terrible anxiété qui lui serrait le cœur. Elle atteignit en peu de minutes les premières maisons du village. Tout était désert, les fenêtres étaient noires. Il semblait que la population tout entière eût émigré à la Bonne Fontaine. Mais là-haut, derrière cette croisée que Julie connaissait bien, brillait une petite lumière, faible et vacillante comme une vie qui s'éteint. Sans reprendre haleine, la jeune fille monta les deux étages, entra dans la cuisine, mais avant d'aller plus loin, elle s'arrêta. Son cœur battait comme un marteau. Une sueur d'angoisse roulait le long de ses tempes. Enfin, elle ouvrit la porte d'une main tremblante. Une petite lampe brûlait sur la table, éclairant d'une triste lueur un corps immobile, à demi couché dans le grand fauteuil. Tout à côté, un guéridon renversé, des journaux et des livres éparpillés à terre, témoignaient que le vieillard, s'étant levé sans doute, avait senti le vertige s'emparer de lui et s'était retenu au premier meuble que sa main avait rencontré. Il paraissait tout à fait privé de connaissance. Julie s'approcha, lui souleva la tête, l'appela doucement. Mais son visage restait rigide, inanimé. Pourtant, une faible respiration soulevait la poitrine. Il y avait encore un peu de vie, encore un peu d'espoir. Comment Julie réussit à trouver, dans ce ménage qui lui était étranger, les choses indispensables pour donner aux malades les premiers soins, c'est ce qu'elle-même n'aurait pu dire. Une sorte d'activité machinale s'était emparée d'elle. Elle sentait qu'il fallait agir, se presser, employer des moyens énergiques, mais son esprit bouleversé contrôlait à peine le travail de ses mains. Le vieillard était couché sur le côté, la tête inclinée sur la poitrine. Julie réussit à le placer dans une attitude moins pénible, et il lui sembla que le jeu de la respiration se faisait dès lors plus facilement. Mais un temps bien long s'écoula avant que son regard anxieux pût surprendre quelques signes de vie sur ce cher visage. Agenouillée près du fauteuil, réchauffant dans les siennes les mains glacées du malade, elle épiait un mouvement, un soupir, et plus d'une fois, à la lumière incertaine de la petite lampe, elle crut voir s'animer les traits du vieillard. Mais ce n'était que le jeu des ombres, un vacillement de la flamme. Aucun bruit ne se faisait entendre dans cette chambre où la vie et la mort luttaient silencieusement. Dans la pièce à côté, résonnait seul le lent battement d'une grande pendule, et Julie écoutait avec angoisse les secondes qui tombaient l'une après l'autre, s'en allant pour ne jamais revenir. Mais la froide main que la jeune fille presse contre sa joue n'a-t-elle pas tressailli ? Julie se lève.
« Oncle, cher oncle, si vous le pouvez, regardez-moi. C'est votre nièce, c'est Julie !»
À cette voix, il semble que le malade s'efforce de soulever la tête. Il entr'ouvre languissamment les yeux et fait un effort pour parler, mais la force lui manque.
« Prenez ceci, je vous en prie !» dit Julie en s'efforçant doucement de lui desserrer les lèvres pour lui faire avaler une cuillerée de rhum.
Ce cordial parut ranimer le malade.
« Merci, » dit-il d'une voix faible.
Puis il fixa ses yeux sur Julie et la regarda longuement. La jeune fille pensa qu'il s'étonnait de la voir près de lui.
« Marie est venue me chercher. C'est vous qui l'avez envoyée, cher oncle. Ne vous rappelez-vous pas ?»«
Oui, oui, je me souviens, » dit-il en passant la main sur son front. Puis, au bout d'un instant, il murmura
« Judith !»
« Elle est à la bonne fontaine, où j'étais aussi, » ajouta-t-elle en baissant la voix comme une coupable. Tandis qu'elle se divertissait là-bas, le vieillard avait lutté seul contre la faiblesse mortelle qui l'envahissait. Il aurait pu expirer ainsi, comme un abandonné, sans une âme qui lui portât secours. Cette pensée était pour Julie une douleur cuisante. « Vous parliez de tante Judith, » reprit-elle au bout d'un instant. « Désirez-vous la voir ?»«
Non, non !»
Et le vieillard agita la main comme pour écarter l'image de sa belle-sœur.
« Je veux être seule avec toi, Julie. J'ai quelque chose à te dire. »
Il s'exprimait avec effort et par saccades, comme si le fil de ses pensées se fût brisé constamment.
« Cher oncle, » dit Julie en lui prenant tendrement les mains, « puisque vous êtes un peu mieux, voulez-vous me permettre de vous quitter une minute pour aller chercher le docteur ? Il demeure tout près d'ici, vous savez ?»«
Non, reste, c'est inutile, je m'en vais. »«
Ne pleure pas, » dit-il en voyant Julie se détourner pour lui cacher ses larmes.
« Assieds-toi tout près de moi, que je te vois bien. » Ce peu de mots sembla l'avoir épuisé tout à fait. Il ferma les yeux, ses mains redevinrent inertes et Julie crut que cette nouvelle défaillance emportait le dernier souffle de vie.
« Oncle, oncle David !» s'écria-t-elle en sanglotant.
Elle l'entoura de ses bras avec passion. Elle appuya sa joue contre la joue flétrie du vieillard comme pour y faire passer la chaleur de son jeune sang. Cette étreinte ranima le mourant.
« Il ne faut pas que je m'endorme, » murmura-t-il. « J'avais quelque chose à lui dire. »
Il avala encore quelques gouttes de rhum, puis fit signe à sa nièce de se rasseoir.
« Écoute, » lui dit-il d'une voix qui s'entendait à peine, « je veux te bénir avant de m'en aller. J'étais irrité contre toi ces derniers temps et je me suis montré dur peut-être. Pardonne-moi, ma Julie. »«
C'est à moi de vous demander pardon, » dit Julie humblement. « C'est moi qui étais irritée et méchante parce que je ne pouvais comprendre que vous m'eussiez quittée. »
« Tu ne pouvais comprendre ?» répéta le vieillard d'un ton surpris. « C'était pour la paix de ta maison, puisque ton fiancé était jaloux de moi. »
La jeune fille se leva toute droite.
« Qui vous a dit cela ? » s'écria-t-elle. « Jaloux de vous ? Quelle folie ! Quel mensonge !»
Et tout d'un coup, comme à la lueur d'un éclair, elle vit, elle sonda cet abîme qui les avait séparés, elle et Julien, de leur vieil oncle, de leur père d'adoption. Qu'il avait creusé cet abîme, Julie ne le soupçonnait que trop.
la plus écrasante de toutes les douleurs, le sentiment de l'irréparable tomba sur elle comme un rocher. Elle aurait pu crier de désespoir. Mais il fallait respecter le silence solennel de cette heure suprême. Julie sut se contenir. Elle reprit doucement sa place auprès du malade et dit d'une voix très basse « Mon oncle, on vous a trompé, on nous a trompés tous deux, et voilà que vous allez mourir !» Elle laissa tomber sa tête dans ses mains en sanglotant, comme si son cœur se brisait. Le vieillard s'était redressé dans son fauteuil. « Julie, pour l'amour de Dieu, explique-toi vite » murmura-t-il d'une voix entrecoupée. « Je n'ai plus beaucoup de temps. » « Julien vous aime, » dit-elle en relevant la tête. « Il n'a jamais été ce que vous pensez. » La figure du malade s'éclaira d'un sourire. « Dieu soit béni, » dit-il avec ferveur. « Je m'en irai donc en paix avec mes chers enfants. » Mais un nuage voila tout à coup ce sourire. « Mon testament, Julie, je l'ai fait en faveur de ta tante, je lui laisse tout. » « Ça m'est bien égal, » dit la jeune fille avec véhémence. « Ce n'est pas votre argent que je désire. Oh, cher oncle, si vous pouviez vivre encore un peu de temps avec nous !»« J'étais aveugle, » murmura le vieillard en suivant toujours le fil de sa pensée. « Judith m'a fait croire ce qu'elle a voulu. J'y vois clair maintenant, mais il est trop tard. Trop tard !»« Non !» s'écria-t-il avec une énergie soudaine en se penchant vers sa nièce pour lui saisir les deux mains. « Julie, ta tante a mon testament, mais j'en ferai un autre. » « Non, » dit fermement sa nièce, « je ne le souffrirai pas. Vous êtes trop faible, pauvre oncle. Ne vous tourmentez pas l'esprit de cela. Qu'avons-nous besoin de votre argent? Julien et moi, nous sommes jeunes et forts. » « Tais-toi, » dit précipitamment le vieillard. « Je dois réparer mes torts pendant que j'ai encore un peu de temps. J'écrirai, prends vite du papier dans le tiroir de ma table. » Puis il ajouta avec un demi-sourire, « Tu m'as toujours été docile, Julie, et c'est la dernière fois que je te commande quelque chose. » La jeune fille obéit silencieusement. « Voilà, mon oncle, » dit-elle en attirant la petite lampe plus près de lui. Un grand changement se faisait dans la figure du malade qu'envahissait la pâleur et le froid de la mort. Les traits devenaient rigides et toute la vie semblait s'être réfugiée dans les yeux. Grands, calmes et limpides, ils témoignaient de la lucidité de l'esprit. « Il faut me hâter, » dit le vieillard en parlant très bas, comme pour ménager son reste de force. « Moi, David Dumont, très affaibli de corps, mais jouissant de toutes mes facultés, j'annule mon testament du... Quel jour était-ce? Vendredi passé, du 27 octobre 1800. Et je déclare laisser à mes 5 neveux tout ce que je possède. » Cependant, continua-t-il comme se parlant à lui-même, Judith me soigne depuis longtemps. Elle a fait des dépenses pour moi. J'ajouterai ceci, Julie. À l'exception d'une somme de 500 francs que je lègue à ma belle-sœur Judith Fèvre. Relis, ma fille, et maintenant, donne que je signe. » Ses pauvres doigts enraidis avaient peine à tenir la plume et plus encore à lui faire tracer des caractères lisibles. Julie regardait en réprimant ses sanglots cette main qui avait si souvent travaillé pour elle et dont la dernière œuvre encore était un acte de sollicitude et d'amour. « Bien !» dit le vieillard en se laissant retomber sur son oreiller. « Maintenant, tout est en règle. Julie, embrasse-moi. Tu diras à Julien, continua-t-il d'une voix faible comme un souffle, que je lui demande pardon de m'être irrité contre lui l'autre jour. Tu embrasseras les enfants pour moi. » Épuisé, il se tut et ferma les yeux. Julie, agenouillée près de lui, les mains jointes, priait dans son cœur.